7h41. Bonjour Jérôme Ferrari, vous
Bonjour.
Êtes romancier et ici au matin, on aime beaucoup vos romans. On vous aime depuis que l'on vous a découvert, notamment avec le prix Goncourt 2012, Le Sermon sur la chute de Rome. Vous publiez à son image un roman chez Actes Sud, un roman qui résonne particulièrement dans l'actualité. Et d'ailleurs, les deux prix Goncourt que nous allons recevoir ce matin, Nicolas Mathieu qui va vous rejoindre dans quelques minutes et vous-même, vous travaillez sur l'actualité, vos romans résonnent sur l'actualité. Je vais d'ailleurs lire un extrait de « À son image ». Aucune photo, aucun article n'a jusqu'ici provoqué aucun choc, si ce n'est peut-être le choc inutile et éphémère de l'horreur ou de la compassion. Les gens ne veulent pas voir ça, et s'ils le voient, ils préfèrent l'oublier. Ce n'est pas qu'ils soient méchants, égoïstes ou indifférents, pas seulement du moins, mais c'est impossible de regarder ces choses en sachant qu'on ne peut strictement rien y changer. En lisant cet extrait de votre roman, Jérôme Ferrari, je pensais à la photo de cette jeune yéménite Amal Hussein, une photo terrible en couverture du New York Times. Elle est morte le 1er novembre de famine. Le New York Times avait déclenché beaucoup de réactions en publiant la photo de cette petite fille de 7 ans. Et voilà, ça n'a changé à rien. Et c'est un peu le destin aussi de votre héroïne Antonia, qui est photographe. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène une photographe dans ce roman ?
Ah bah d'abord parce que moi j'ai toujours été très très impressionné par le photoreportage. Moi c'est la pratique de la photographie qui me touche immédiatement le plus. Et par ailleurs c'est celle qui soulève un très grand nombre de problèmes à différents niveaux. Celui que vous avez cité c'est celui de l'impact sur l'opinion publique. Et le passage que vous avez lu il concerne le début de la guerre en ex-Yougoslavie, donc en 1991. Et peut-être qu'aujourd'hui ce qui m'avait aussi frappé à l'époque c'était que des photos très très emblématique, au moins aussi iconique que des photos prises pendant la guerre du Vietnam, par exemple, comme celle de Ron Aviv, avait pas eu d'impact particulier, ce qui était pour moi une forme de mystère. Quand je dis pas d'impact particulier, y compris sur moi, quand je parle de la réaction émotive immédiate qui donne lieu à rien, je suis pas dans une position de donneur de leçons. C'est exactement ce que ça me fait à moi aussi. J'ai vu la photo de la petite yéménite, c'est une photo atroce et je crois qu'elle est morte après. Je pense pas que ça va changer grand chose sur ce qui se passe au Yémen.
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé grand chose. Pourquoi des gens comme Antonia, votre héroïne, veulent-ils devenir photo-reporter? Alors, cette femme, elle aussi, entre une carrière de photographe, encore ce qui ne la satisfait pas, elle fait des photos qui sont extrêmement illustratives, des photos de balles populaires, de scènes de la vie quotidienne dans les villages, et on lui demande de coller avec la réalité. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en photographie, mais peut-être donnerez-vous une définition. Et elle décide donc de partir en Yougoslavie, photographier la guerre, et là, c'est la illusions. Qu'est-ce qui la pousse à partir?
Alors, d'abord, c'est une déception majeure sur le travail qu'elle fait dans la presse quotidienne régionale en Corse, et qui consiste évidemment à faire une espèce de chronique de la vie des villages, avec des codes assez précis, la photo étant faite, en l'occurrence, pour mettre le plus de gens dans le cadre et faire une espèce de souvenir. C'est pas comme ça qu'elle imagine son travail. Et donc, elle décide de partir en freelance au début de la guerre en Yougoslavie, sur le front de Slavonie orientale. Et moi, ce qui m'intéressait là, c'était la paralysie possible entre une pratique de la photographie qu'elle va juger insignifiante et une autre qu'elle découvre obscène et inutile. Et qui en quelque sorte l'empêche d'avoir une pratique de son métier qui lui convienne. Et c'est cette question de l'obscénité et de l'efficacité, c'est vraiment pour moi au cœur du photoreportage de guerre.
C'est-à-dire
la première chose, c'est comment on montre un événement terrible. Qu'est-ce que c'est que l'obscénité en photographie? Et j'aborde ça comme un problème parce que il y a des tas de manières différentes d'être obscène, y compris en se montrant trop pudique, trop ostensiblement pudique parfois. Et je pense pas du tout qu'on puisse régler le problème par une position théorique générale.
Mais parce que a priori, ce que pourrait se dire un photojournaliste, ce qui conduit en partie Antonia à y aller, c'est l'idée de rendre compte des souffrances d'autrui. Et donc plus une photo de guerre est obscène, plus elle peut alerter l'opinion publique, alors, a priori.
Je pense pas que l'obscénité soit exactement la même chose que le fait que la photo soit terrible. Il existe des photos terribles dont, me semble-t-il, l'obscénité n'est pas en question. Une photo pour laquelle la question se pose et s'est posée, c'est par exemple la photo très connue de Kevin Carter prise pendant en Somalie, je pense, pendant une famine où on voit un tout petit enfant prostré par terre avec un vautour derrière lui.
Il dit d'ailleurs qu'il n'a pas vu le vautour lorsqu'il a photographié cet enfant au départ, que c'est seulement après qu'il s'est aperçu qu'il y avait un vautour dans le cadre.
Ah, moi, ce que j'avais lu, j'avais entendu une interview de lui où il avait très bien vu le vautour et où il a même attendu 10 minutes en espérant que le vautour allait ouvrir ses ailes.
En tout cas, il se défend d'avoir eu la moindre vérité. L'obscénité, c'est un terme.
J'en suis convaincu, mais et je ne pense pas moi que cette photo soit condamnable. Hein, mais de fait, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle est. Elle est là pour susciter quoi. Et dès qu'on peut soupçonner une image ou que l'image a effectivement pour effet de susciter une forme de jouissance dans l'œil du spectateur, alors là, on est dans le cas de l'obscénité. Bien sûr, on pourrait débattre parce que je suis certain qu'on serait jamais d'accord pour savoir si telle photo est obscène ou pas. Mais voilà le problème.
Sur le plan psychologique, qu'est-ce qui incite un individu à risquer sa vie, puisque donc en Yougoslavie, lorsqu'on est reporter de guerre, évidemment, on risque sa vie, à vouloir quitter une vie trop monotone pour aller rendre compte, essayer donc de devenir utile sur un théâtre de guerre.
Alors, pour vous dire la vérité, en ce qui me concerne, étant romancier et pas photographe de guerre, j'aurais tendance à penser que cette motivation psychologique est un mystère pour moi aussi. J'ai dû un peu discuter avec des gens qui m'ont éclairé là-dessus.
Il y a deux
motivations peut-être inextricables. Enfin, c'est ça que j'ai voulu. Ce sont celles en tout cas de mon personnage, hein, je prétends pas du tout faire une psychologie des photographes de guerre, ce qui est une qui serait une volonté de témoigner, hein. Patrick Chauvel a fait un livre très très chouette qui s'appelle Rapporteur de guerre et un reportage aussi, témoigner qu'il se passe quelque chose, être un œil ouvert sur l'événement, attester de la réalité d'un événement, et sans doute quelque chose d'un peu moins social ou politique et qui relève plus de la motivation personnelle qui est peut-être, en tout cas chez Antonia, une tentation d'échapper à son quotidien et de vivre quelque chose qui relève d'une forme d'aventure.
Parce que moi j'ai une petite théorie sur les reporters de guerre et notamment parce qu'il y a des reporters de guerre en photographie, en radio, et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui permet de mettre en sommeil quelque peu son intériorité. C'est toujours compliqué d'avoir une intériorité. Et donc, lorsque vous êtes branché sur la guerre, sur des souffrances qui sont des souffrances inouïes, c'est une manière de moins penser à vous, et de moins avoir de soucis immédiats. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Et si on la met en rapport avec ce qui incite quelqu'un, vous en l'occurrence, Jérôme Ferrari, à devenir écrivain?
Alors, je me fie absolument à votre expertise en matière de journalisme.
Mais
en tout cas pour ce qui est du désir de devenir romancier, bon, à part évidemment ce qui est évident, l'amour de la littérature, l'expérience de lecteur et la foi dans une forme de puissance du roman. Si on se met sur le point de vue psychologique, effectivement. Je trouve que écrire un roman est une manière d'échapper à soi et de faire une expérience de l'altérité. J'ai jamais considéré le roman comme le lieu d'exposition du moi, comme une espèce de gigantesque selfie écrit, mais au contraire comme une possibilité de faire l'expérience, ou bien de tenter de faire l'expérience de choses qu'on ne connaît pas directement. Il y a une certaine prétention là-dedans et évidemment un risque d'échec complet, puisque on peut très bien se planter totalement et écrire un truc inauthentique sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et dont on va s'approcher par une espèce de projection dont on peut espérer qu'elle va pas tomber tout à fait à plat. Mais en tout cas le plaisir de l'écriture pour moi, et là je m'en tiens vraiment au niveau psychologique, il est certainement là.
En tout cas, Antonia, votre personnage, Jérôme Ferrari, est quelqu'un à qui on va couper les ailes, puisque lorsqu'elle essaye de faire de la photographie selon son envie dans cette presse quotidienne régionale. On lui demande de cadrer au plus large, on lui demande de composer des photos de manière extrêmement plate pour elle. Lorsque vous avez écrit ce roman, lorsque vous avez été confronté à la question du style, qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Comment un romancier négocie-t-il avec le style qu'il emprunte pour écrire?
Alors là, c'est la question se posait d'autant plus qu'il s'agit de parler d'image avec de l'écriture. Et qu'évidemment, aucune description écrite, si précise soit-elle, ne peut concurrencer l'immédiateté de la photographie. J'ai essayé de saisir. Il y a beaucoup de photographies décrites hein, dans le roman. Il y en a des réelles. Il y a certaines photographies sont réelles, certaines sont imaginaires. Et pour les réelles, les descriptions que j'en ai données, elles sont même pas extrêmement précises si on les regarde. J'ai essayé de saisir et d'expliciter le sens qu'on leur donne quand on les regarde. Et ça, pour le coup. La mise en contexte, l'interprétation, ça relève du langage et pas de l'image.
Il n'est pas seulement question de photos dans ce roman, et ce roman que vous publiez, Jérôme Ferrari, à son image aux éditions Actes Sud. Il est également question d'une histoire d'amour entre Otonia et Pascal, un garçon de son village corse, dont on sent que, dès le départ, le seul choix qui s'ouvre à lui, aussi entre... On peut dire le banditisme et l'indépendantisme, avec une distinction nette entre les deux au départ, et puis une distinction peut-être de plus en plus ténue, ce qui fait qu'Antonia, finalement, est toujours confrontée à la violence des hommes en Corse et en Yougoslavie.
Elle grandit dans la Corse des années 70, donc elle assiste au début du mouvement nationaliste, juste après Aléria en 75. Et donc moi je dirais pas que Pascal ou les garçons du village ont le choix entre le banditisme et l'indépendantisme. En ce qui concerne le début des années 80, il s'agit pas d'un choix, mais réellement d'un sentiment d'injustice qui amène les gens à rentrer dans le mouvement et à s'engager.
C'est-à-dire que c'est pas. Alors évidemment. Ils avaient la faculté de faire autre chose que du banditisme et de l'indépendantisme. Mais disons que dans leur représentation du monde, on a l'impression qu'un personnage comme Pascal est conduit en quelque sorte à ce choix-là.
Conduit à ce choix-là par parce qu'il a 20 ans en 1980 et que c'est vraiment un phénomène générationnel. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de retracer l'histoire d'un moment que je connais très bien, hein, puisque que j'ai connu même de l'intérieur, un mouvement qui m'a toujours fasciné entre le romantisme. Et la sincérité des débuts et les dérives du milieu des années 90 où les scissions entre les différentes parties du mouvement nationaliste ont conduit à des affrontements armés et à une vingtaine de morts. Et
le mouvement indépendantiste, vous l'avez connu de l'intérieur, Jérôme Ferrari?
Oui, absolument.
Et vous en êtes détaché, pourquoi?
Oh, il y avait là aussi, comme pour toute chose, il y a de louables raisons politiques et puis de sombres raisons psychologiques, sans doute, qui sont intimement mêlées. Je suis rentré en Corse en 1988 et il se trouve que j'ai commencé à militer dans le mouvement nationaliste au tout début des scissions. Et j'ai même milité professionnellement parce que j'étais employé pendant 2 ans et demi au journal du mouvement. J'ai eu une brève carrière de journaliste non photographe. Moi-même. Et la plus grosse déception pour moi a été justement d'arriver au moment où le mouvement se délitait et où les affrontements se profilaient, et ça a été pour moi l'occasion d'une désillusion assez radicale et sur laquelle je suis resté depuis 25 ans maintenant, en ce qui concerne notamment le militantisme et la foi qu'on peut avoir dans les causes qu'on défend.
Pourquoi ?
Parce qu'il m'a semblé que la facilité avec laquelle des gens qui sont amis peuvent, amis qui partagent les mêmes idées, peuvent se retourner en une forme de haine, hein, m'a fait penser que le militantisme n'était pas le milieu que je préférais pour ma foi dans les rapports humains.
Et sur le rapport que la Corse entretient ou semble entretenir avec la violence, j'ouvre par exemple Libération. Aujourd'hui, il est question du milieu corse avec l'affaire dite du Petit Bar, une sorte de feuilleton sur les dérives mafieuses d'un certain nombre de personnages des affaires en Corse. Comment vous expliquez ça, Jérôme Ferrari?
Alors, je pense qu'il doit y avoir un trait culturel méditerranéen assez ancien. Je crois que j'ai lu un article du Monde il y a une quinzaine de jours qui interprétait un règlement de compte sous l'angle vraiment d'une très antique volonté de vengeance, et que peut-être que cet article n'était pas si
éloigné de la réalité
que ça. Hein, et je pense qu'il y avait quelque chose de pertinent. Il y a certainement le fait que il y a des motifs sociaux aussi. On n'est pas un pays très développé. Peut-être que c'est la conjonction de multiples mini causes qui fait ça. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que bien que l'accord soit au niveau de la vie quotidienne, une des régions les plus sûres qu'on puisse imaginer, l'existence de cette violence dans le grand banditisme, etc., dans une société qui est aussi petite que la nôtre, d'une manière ou d'une autre, elle touche tout le monde et qu'elle corrompt assez les rapports sociaux.
Dans cet univers, qui est un univers quand même extrêmement noir, celui de votre roman Jérôme Ferrari à son image, publié chez Actes Sud, il y a un personnage qui surnage. Pour ceux qui connaissent votre œuvre, ça n'est pas complètement une surprise. C'est le personnage d'un prêtre qui est également le parrain, l'oncle d'Antonia, avec donc une sorte d'affection pour ce personnage, une affection tout à fait compréhensible, et l'idée finalement que dans cet univers très noir et finalement assez désespérant, il n'y a que cette transcendance-là qui sauve.
Je sais pas si c'était l'idée. Moi, j'avais très très envie de travailler sur un personnage de prêtre. Bon, le roman est articulé autour du déroulement d'une messe de Requiem, hein, qui est celle de l'enterrement d'Antonia. Et j'ai toujours été assez sensible, moins à la transcendance qu'à la possibilité, qu'à la capacité, qu'à le rituel catholique des obsèques à rendre compte de la profondeur du tragique et de la terreur.
C'est-à-dire que vous avez une vision laïque de ce rituel-là?
Ah non, j'ai pas une vision laïque de ce rituel-là, mais moi-même, je suis pas croyant, mais j'ai toujours été assez sensible à la force du rituel. Bon, en Corse, il peut arriver assez souvent qu'il se passe sous forme de polyphonie, ce qui le rend, à mon avis, encore bien plus efficace. Hein, l'esthétique a jamais nui à la profondeur, mais les paroles du rituel sont assez éloignées de la niaiserie des enseignements du catéchisme. Et il y a quelque chose, il y a une prise en compte du tragique de la mort qui est assez parfaite.
Jérôme Ferrari, à son image, votre roman, un très beau roman sur la guerre, la violence, sur une vie ratée, pourrait-on dire, mais une vie ratée qui ouvre à une certaine forme de transcendance laïque, ça c'est moi qui le dis, hein, Jérôme Ferrari, vous n'êtes pas forcément d'accord. Dans quelques minutes, Nicolas Mathieu va nous rejoindre, c'est le lauréat du prix Goncourt de cette année, il publie Leurs enfants après eux, et là aussi c'est un roman qui résonne dans l'actualité, qui résonne avec certains des thèmes que vous évoquez, notamment une peinture de la jeunesse, de ses envies, et puis peut-être aussi de ses désillusions. Deux prix Goncourt, le prix Goncourt 2012 qui vient avec un nouveau roman Jérôme Ferrari à son image, et celui de cette année Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, deux romans avec des points communs même si leurs sujets sont très distincts. Un point commun peut-être, les illusions perdues de la jeunesse. Et puis dans une trentaine de minutes, le billet culturel de Mathilde Serrel sur la restitution des œuvres d'art pillées par la France, et Aurélien Bélanger qui nous livrera sa conclusion attendue, je dois dire, sur les camion, un lien avec les gilets jaunes, bien entendu. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et une interrogation.
Quel débouché politique pour les gilets jaunes?
Faut-il rendre des frises du Parthénon à la Grèce? Les statues Moai à l'île de Pâques? La question des restitutions revient sans cesse dans l'actualité. Restitution, appropriation, à qui appartient la culture? Journée spéciale sur notre antenne ce vendredi, alors qu'est remis ce même jour à Emmanuel Macron un rapport sur la restitution des œuvres d'art africains. Quel défi pose le post-colonialisme à la culture? Quel débat autour de la notion d'appropriation culturelle? À qui appartient la culture? Ce vendredi dès 6h et sur franceculture.fr, en partenariat avec Courrier International.
Je dois dire qu'il est 8h17. Frédéric Seize, le billet politique. Quel débouché politique pour les gilets jaunes?
Oui, c'est toute la limite d'un mouvement qui se veut apolitique. Il se défie ouvertement des partis et du gouvernement, mais dans le même temps, il produit une série de revendications soumises précisément au gouvernement. Un pied dans la politique, un pied dehors. Les gilets jaunes sont confrontés à cette aporie dans les barrages dressés depuis 4 jours. Les responsables politiques sont traités au mieux de menteurs, au pire d'escrocs et de pantins du système. Alors faut-il s'asseoir à la table du système? Qui peut négocier au nom de 300 000 volontaires auto-organisés et qui peut appeler ensuite à la levée du mouvement? Avec quelle légitimité? Face à cette impasse, les partis d'opposition tentent d'amadouer la colère, de s'en faire les porte-voix. Cela donne d'ailleurs une assez peu glorieuse course à l'échalote. Hier, le gilet jaune a fait son entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le député Jean Lassalle, ancien candidat à la présidentielle, l'a revêtu en pleine séance, ce qui est interdit et ce qui a entraîné l'intervention du président de l'Assemblée, Richard Ferrand.
Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue.
Et Jean Lassalle n'a pas organisé de barrage à l'intérieur de l'hémicycle, il a simplement accepté d'enlever sa chasuble phosphorescente. Le Canard enchaîné paru hier raconte une autre scène, ou plutôt une autre mise en scène. Laurent Wauquiez a participé à une manifestation samedi dernier dans sa terre d'élection en Haute-Loire. Mais comme il avait peur d'être malmené par des sympathisants du Rassemblement National, nous raconte le journal, eh bien le patron de la droite a demandé à ses propres militants de venir et d'enfiler un gilet jaune. Résultat, de belles images d'écoute et de dialogue avec des inconnus qui ne l'étaient pas vraiment. Dans un genre moins théâtral mais pas moins calculé, François Hollande appelle le gouvernement à écouter, à agir. L'ancien président tient toutefois à se démarquer de Jean-Luc Mélenchon. François Hollande compare même Jean-Luc Mélenchon à Paul Déroulède, l'écrivain nationaliste qui poussait le général Boulanger à prendre l'Élysée par la force.
Dans son comportement, dans ses méthodes, dans ses manières de faire, enfin, qui allait place de la Concorde dans les mouvements que l'on connaissait autrefois?
En 1924, c'est ça.
Enfin, qui allait dire, allez, on va à l'Élysée? Enfin, c'est Déroulède, ça ne dira pas grand-chose à grand monde, Déroulède. Mais enfin, il y a un côté Déroulède, il y a un côté, allez, on y va.
Alors, quel débouché pour le gilet jaunisme, comme on pourrait appeler ce mouvement? Pour les leaders d'opposition, l'équation est compliquée. Certes, depuis des mois, ils protestent contre la politique macroniste, les uns à gauche en dénonçant les inégalités, les autres à droite en dénonçant les taxes, les troisièmes en regrettant le racket des automobilistes, et tous revendiquent donc leur part dans la maturation des esprits qui a conduit à cette colère. Mais depuis le début du mandat, malgré leurs pics enflammés contre Emmanuel Macron, ils n'ont jamais réussi à susciter un centième du mouvement de colère que l'on voit à l'œuvre. Il se fait sans eux, ils n'ont pas enfanté un gramme de ce mouvement. Et ce dernier leur conteste d'ailleurs toute paternité. Les gilets jaunes disent d'ailleurs massivement leur rejet des responsables politiques, fussent-ils d'opposition. Les slogans multiples, hétéroclites, mêlent le prix du carburant et la dissolution de l'Assemblée nationale, convoquent le souvenir de Pierre Poujade et 1789, mélangent les appels à bloquer le rond-point du secteur et à marcher sur l'Élysée. Pour l'heure, les chefs de l'opposition jouent à souffler sur les braises, à faire grandir l'incendie, sans savoir s'ils sauront demain le maîtriser. Ils nourrissent la bête anti-gouvernementale, parfois anti-parlementariste, sans être sûr de pouvoir demain la dompter, sans être sûr que ce mouvement ne se retournera pas à terme aussi contre eux.
Merci beaucoup Frédéric Seize pour ce billet politique que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et nous retrouvons un romancier, Jérôme Ferrari, il est prix Goncourt 2012. Il publie à son image chez Actes Sud et nous accueillons un autre romancier prix Goncourt de cette année, Nicolas Mathieu. Vous publiez Leurs enfants après eux également chez Actes Sud. Et alors j'ai envie de vous entendre sur les gilets jaunes, non pas du tout que votre roman et un quelconque rapport avec les prix du carburant, encore qu'il y a une moto comme l'un des personnages principaux, une moto qui sera volée, une YZ Yamaha pour les puristes. En revanche, votre roman, il se déroule dans une ville industrielle de Lorraine, une ville en chute, et Yange, on peut reconnaître à Yange, et on va suivre des scènes qui se déroulent dans cette ville à partir de 92 jusqu'en 1998. Votre réaction à cette France, c'est une France moyenne, une France de petits moyens, comme on dit sociologiquement, qui témoigne de sa souffrance et finalement que vous mettez en scène dans votre roman, Nicolas Mathieu.
Ouais. Bonjour. Je serais bien en peine de faire le point sur les convulsions qui ont cours et puis les tentatives de captation de tout ça qui se font jour à droite ou à gauche. Mais là où c'est en prise, où le roman est en prise peut-être avec cette réalité-là, c'est la centralité du carburant et des transports dans cette France-ci. Le roman, il raconte finalement au départ le vol d'une moto qui est synonyme quand même très fortement d'autonomie et de liberté dans pour les gamins que je mets en scène dans le bouquin. Et cette augmentation du carburant, elle tombe comme un couperet sur un mode de vie, je crois, où les distances se traduisent par des trajets en bagnole, etc. Donc là, effectivement, les personnages qu'il y a dans le livre, c'est vrai qu'ils pourraient, pour certains d'entre eux, endosser ces gilets jaunes. Pour beaucoup d'entre eux, je pense qu'ils sont aussi en adéquation avec ce qui se passe, dans le sens où ils se sentent toujours les dindons de la farce de l'air du temps. Et ça, il me semble qu'à l'origine de ce mouvement, il y a un sentiment de cet ordre.
Je vais lire un extrait de, justement, une scène avec cette moto. Hassine descendit la côte de la ZUB sur l'YZ, plein gaz, le buste penché. Il s'enfila dans le centre-ville à fond de troisième. Le jeu consistait désormais à ne plus freiner. Il suffisait pour cela d'anticiper les virages et de remettre les gaz en fin de courbe. Le petit moteur crépitait rageusement dans les ruelles. Sur son passage, les gens ne voyaient rien qu'une silhouette maigre, deux bras filiforme, sorti d'un t-shirt extra large. Et effectivement, cette moto, c'est un objet de désir. Il est question des désirs adolescents. C'est un objet de liberté évidemment, et c'est un objet qui finalement va faire se précipiter le drame dans ce roman « Leurs enfants après eux », Nicolas Mathieu.
Oui, c'est exactement ça. Pour le personnage, cette moto, pour Anthony et puis ensuite pour Hassine, c'est le moyen de s'arracher, peut-être pas à leur monde, mais en tout cas alors là où ils se trouvent englués au départ, et puis d'aller ailleurs, d'éprouver cette ivresse de l'accélération, de la vitesse, c'est aussi voilà, c'est l'adolescence et c'est un moment où on recherche ses limites et où voilà, la moto c'est un objet de flambe et puis de d'ivresse absolument.
Et justement, pour résumer ce qui se déroule dans ce roman, ça se passe l'été, donc ce qui est bien pratique pour laisser en quelque sorte se développer à la fois les désirs adolescents et tout ce que l'on peut faire entre la moto, boire des bières, fumer des pétards, ce que l'on fait lorsque l'on est adolescent. Il va être beaucoup question de ces corps adolescents, de leurs odeurs, de la sueur, du désir estival. Vous mettez en scène plusieurs personnages. Il y a Anthony qui, lui, est issu d'une famille moyenne, justement. Mmh. On parlait de ces familles en chute. Steph, la fille dont il est amoureux, qui vient d'un milieu social plus élevé. Mmh. Hassine, qui lui est fils d'immigrés, avec toutes les questions de racisme, de discrimination qui peuvent se dérouler, et vous mettez en scène finalement ce milieu qui va découvrir ce qu'est la stratification sociale, c'est-à-dire pourquoi les individus ne sont pas promis au même destin alors même qu'ils vivent au même endroit. C'est cela votre souhait, Nicolas Mathieu ?
Mon souhait, c'est déjà d'écrire un monde, c'est-à-dire une petite vallée. Et dans lequel la désindustrialisation a fait peser un lourd héritage sur une jeunesse. C'est l'histoire de quelques vies qui commencent dans un monde qui est en train de finir. Alors c'est pas la fin du monde, hein, y a quelque chose d'autre qui va arriver, on le sent. Et à la faveur de ces étés-là, ces mondes qui sont quand même assez, séparés, entre lesquels il y a des frontières, si ce n'est infranchissables, du moins quand même sévères et bien tangibles, ben à la faveur de l'été, il y a des circulations qui s'organisent, parce que le désir, parce que le temps libre, parce que l'ennui, parce que là, il y a des fêtes, il y a des moments comme ça. Et donc, c'est un roman qui est à la fois sur les strates sociales, sur les écarts, et puis aussi sur les tentatives de passage par amour, par ambition, par le vecteur du désir.
Je parlais de stratification sociale parce que finalement, le personnage d'Anthony se rend compte que même si il fréquente a priori les mêmes lieux que cette jeune fille Steph, il y a une forme de cloison, de barrière qui l'empêche d'aller naturellement vers cette fille.
Oui, en tout cas, cette fille lui semble inaccessible au départ parce qu'elle est trop bien pour lui. Et puis finalement, peu à peu, au cours du roman et des quatre étés qui vont se dérouler, peut-être qu'il se rend compte que cette distance, elle repose sur autre chose. Elle repose sur un écart qui n'est pas celui de son insuffisance, mais qui est celui du social, qui est cette brutalité qui est faite, qui vous est faite quand vous n'avez pas les moyens de vos désirs, quoi. Alors lui, c'est un désir qu'il a pour une fille. Et puis cette fille, elle est intouchable parce que c'est parce que lui c'est un petit mec et qu'elle c'est une petite bourge, quoi, voilà.
Il y a le roman de Jérôme Ferrari, vous avez écrit un roman sur la violence physique, celle qui par exemple a lieu en Corse ou en Yougoslavie, puisque votre héroïne Antonia, elle photographie ses deux scènes, ces deux théâtres, le théâtre corse avec les violences indépendantistes et le théâtre yougoslave, puisqu'elle décide d'être photoreporter. Et vous, Nicolas Mathieu, vous vous intéressez en quelque sorte à la violence symbolique ou à la violence sociale et vous tentez d'en montrer les contours.
Cette violence sociale, elle se traduit aussi par de la violence tout court, assez rapidement, un peu comme dans le premier livre, Aux animaux la guerre. Il y a un moment quand elle est exacerbée, quand elle ne trouve plus à s'exprimer parce que les gens n'ont pas les mots qu'il faut ou parce qu'ils se sentent acculés, elle devient de la brutalité tout court. Mais la réalité du social, c'est pas le mérite, c'est pas le tout le monde. Quand on veut, on peut. Il suffit de vouloir pour pouvoir. C'est la reproduction. C'est quand même des structures de domination très dures et qui peuvent rendre fou, quoi. Donc il y a cette violence là, ouais, qui est mise en avant dans le bouquin.
Il y a une scène assez violente dans votre roman. Alors il y a des scènes de violence pure, mais moi je parlais d'une scène de violence sociale où Hassine est reçue par une conseillère d'orientation qui doit en quelque sorte mettre en ordre son CV. Alors elle est pleine de bonne volonté, il n'y a pas de doute sur la volonté de cette femme de bien faire, mais en réalité, plus elle l'accompagne, plus elle l'humilie. Et tout ce qu'elle lui dit l'humilie plus encore.
Oui, alors, ça l'humilie, et puis peut-être aussi que lui, il a une forme d'orgueil qui fait qu'il se sent humilié, quoi. C'est le problème des conversations entre des gens qui n'ont pas la même langue, en fait, et qui n'ont pas les mêmes références. Et sans cesse, les personnages sont comme ça dans des couacs, des incompréhensions, des malentendus, parce que sous la langue qui semble partagée, en fait, il y a d'immenses malentendus. Et ils ne se comprennent pas et ils se sentent... Mais il y a le même problème peut-être pour Anthony avec Steph. Lui aussi se sent humilié par le rejet et la distance qu'elle lui impose.
Et effectivement, même si cette fille ne veut pas l'humilier, puisque c'est pas son but, en tout cas, il y a donc tous les mécanismes de ségrégation sociale qui font qu'il est difficile d'échapper à sa classe sociale. Votre roman est assez terrible en ce sens, parce que finalement, il y a comme une sorte de loi inexorable. Tout se passe comme si le social était une fatalité.
Il me semble que de fait, les forces majeures du monde social, ce sont celles-là, celles du destin social. C'est-à-dire que, en général, quand on est quelque part, on y reste. Et à la limite, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on peut très bien passer une vie heureuse, décente et valable, et en restant exactement à la place où on est né. C'est pas le problème. Le problème, c'est que souvent, l'histoire qu'on se raconte, les mythologies qui nous meuvent au niveau politique ou culturel ou dans l'enseignement, c'est l'inverse, c'est-à-dire tout semble possible. Donc il me semble intéressant dans un roman de parler d'autre chose, quoi.
Mais alors tout semble possible, et justement, dans votre roman aussi à vous, Jérôme Ferrari, tout semble a priori possible à Antonia, et finalement elle va découvrir que pas grand-chose n'est possible. Finalement, il y a un fil là aussi, c'est celui des illusions perdues de la jeunesse.
C'est sûr, mais les freins d'Antonia sont des freins qu'elle construit elle-même. Il y a pas le poids du social tel qu'il existe dans le roman de Nicolas. Et puis là, je pense que la réalité sociologique de la Corse est organisée assez différemment. Mais chez Nicolas, la stratification, elle est quand même à plusieurs plusieurs niveaux, parce que ce qui est assez drôle, et je pense très bien vu, c'est que Stéphanie, qui est quand même la classe sociale supérieure de la vallée, fait elle aussi à un moment une grosse expérience de l'humiliation dès qu'elle commence des études supérieures, et où c'est elle qui est reprise pour son accent, ses manières qui ne conviennent pas, et du coup aucun des personnages du roman de Mathieu ne semble être vraiment appartenir, enfin c'est pas une grande bourgeoise, Stéphanie, son père a une concession automobile, voilà. Encore ce que j'essaie de décrire toujours dans mes romans, c'est plutôt une réalité de village qui est un peu spéciale, parce que sans doute en raison des grandes vagues de diaspora qu'il y a eu à partir des villages en Corse, dans un même endroit, un tout petit, on retrouve beaucoup de classes sociales différentes. Il n'y a que dans des bars en Corse où j'ai été à côté d'un type qui sortait de prison, d'un agriculteur et d'un professeur d'université, par exemple, sur le même comptoir. Ce qui, moi, personnellement, m'arrange vraiment bien du point de vue du réservoir romanesque que ça représente.
Finalement, le comptoir, c'est peut-être le seul
Nicolas
ferment d'égalité des chances.
Voilà, c'est très bien. Oh, des chances, non. Mais au moins des déstratification.
Il y a d'autres comptoirs et beaucoup de bière d'ailleurs dans votre roman à vous aussi, Nicolas Mathieu. Mais justement, je me demandais, et comme vos deux romans sont quand même des romans assez noirs, c'est-à-dire que on peut imaginer d'autres destins quand on est jeune, on peut imaginer avoir un appareil photo à 14 ans comme vous le montrez, Jérôme Ferrari, et effectivement et jouir du plaisir d'être photographe et pas seulement cette désillusion-là. Cette vision noire, c'est une fibre romanesque ou bien est-ce votre manière de voir le monde?
Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup une citation de Bernanos qui s'en prend un peu à l'optimisme en disant que c'est surtout une manière de s'arranger facilement avec la misère du monde. Je trouve ça assez juste. Donc je trouve pas qu'il y ait de raison de se réjouir particulièrement. Et même pour rebondir sur ce que je disais sur Bernanos, je trouve que dès que j'entends des choses comme tout le monde a des chances ou bien il faut apprendre de ses échecs, ça me met dans une colère noire. Vraiment. Je trouve que c'est une forme de discours qui est l'un des plus ignobles qu'on puisse produire, et évidemment avec la bonne conscience de dire voilà, je laisse une place à l'espoir. Et pour moi, c'est rien d'autre qu'un mensonge, voilà. Et je suis pas sûr qu'un roman ait à frayer avec ce mensonge-là.
Bon, les gens heureux ont rarement beaucoup de place en littérature.
En plus, il y a aussi le problème technique de raconter une histoire intéressante sur la béatitude.
Nicolas Mathieu, et j'ai lu que vous avez eu envie d'être romancier très tôt en vous disant que c'était bien un métier où on avait le droit d'être malheureux.
Je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Bah vous l'avez dit comme ça.
Moi, quand j'étais môme, il y avait des photos d'écrivains accrochées à mon mur, j'étais plus Rimbaud que Platini, quoi. Et effectivement, dans l'image romantique que je m'en faisais, c'était les affres de la création, le petit nuage noir au-dessus de sa tête, et ça me faisait beaucoup fantasmer. Après, on n'écrit pas pour être malheureux, peut-être qu'on écrit parce qu'on l'est, mais pas pour l'être.
Mais dans votre cas? Pardonnez-moi cette question indiscrète, mais...
En tout cas, ouais, l'écriture, c'est un truc qui rend, pour moi, le monde praticable. Ça, il n'y a pas de doute possible.
Pourquoi?
Parce que ça me permet de rendre des coups, de fixer des choses, de surmonter des frustrations, à la fin, ça apprend une telle place que tout y converge et tout s'y retrouve. C'est une manière aussi de trouver sa place, quoi. C'est de là dont j'observe les choses.
Parce que tout à l'heure, donc, vous évoquiez la fatalité du social, mais vous êtes en quelque sorte le contre-exemple de cette fatalité, ce qui ne dit rien d'ailleurs du monde social, mais qui dit quelque chose de vous. Vous êtes ce qu'on appelle en sociologie un transclasse.
Ouais, mais justement, ces histoires de transclasse ou de success story un peu exceptionnelles, ça n'est jamais que des alibis. Je veux dire par là que c'est des cas.
Pour le monde social, vous
voilà, que ça doit jamais cacher. Ce qui se passe derrière, c'est le transclasse, il faut pas que ça serve d'arbre qui cache la forêt. La réalité du monde social, ça n'est quand même pas celle-là, quoi. C'est pas tout est possible tout le temps.
Mais vous, pour vous, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez eu le prix Goncourt? J'ai cru comprendre que vous avez été surpris d'avoir ce prix. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là?
Ah bah c'est un baume sur des blessures aussi, c'est sûr. C'est une grande surprise pour quelqu'un aussi qui est transfuge comme moi. Il y a un fugace sentiment d'imposture.
Pourquoi d'imposture?
Bah parce que, vous savez, quand on passe d'un milieu à l'autre, on a des problèmes de légitimité, quoi. On a l'impression, on a toujours le sentiment de se dire, qu'est-ce que je fais là? Quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte?
Mais alors, c'est qui un écrivain légitime? C'est Jean d'Ormesson, par exemple.
Non, un écrivain légitime ou une personne légitime, c'est quelqu'un qui est né dans un milieu où on lui a dit, tu es à ta place partout. Et moi, on m'a pas dit tu es à ta place partout, on m'a dit tu dois rester à ta place. C'est deux choses très différentes, quoi. Donc, comme ma place est en train de changer, d'évoluer, ça produit des effets, quoi.
Jérôme Ferrari, qu'est-ce que vous en pensez lorsque, justement, on essaye de voir ce que la littérature permet, parce que, donc, vous avez un point commun tous les deux avec Nicolas Mathieu, c'est le fait, d'avoir exercé différents métiers avant de devenir écrivain, ce qui d'ailleurs va devenir, à mon avis, de plus en plus classique, puisque c'est compliqué de vivre de sa plume aujourd'hui.
Oui, ben c'est plutôt oui, mais moi je suis des choses que j'ai vécues, mettons pas vraiment dans la joie sur les changements de boulot ou les hauts et les bas. Maintenant, j'en suis assez content avec le recul parce que je pense que ça a beaucoup contribué à enrichir mes perspectives et que ça m'est directement utile dans mon écriture. Mais je voulais dire un mot sur le sentiment d'imposture dont parlait Nicolas. Alors d'abord, je crois qu'il doit être franchement inhérent au fait de recevoir le Goncourt à un moment, et je le trouve assez bénéfique, moi, ce sentiment d'imposture, parce que il me semble qu'en littérature, le sentiment le plus dangereux au niveau créatif, c'est au contraire celui de sa parfaite et inaltérable légitimité.
De son génie, d'être convaincu de son génie.
Alors là, c'est encore autre chose. Oui, mais si même la légitimité est dangereuse, alors la certitude du génie est d'autant plus.
Ouais, en tout cas, ça a donné de glorieux exemples en littérature, le fait d'avoir ce sentiment-là. On pense évidemment à Annie Ernaux, qui est, je crois, un écrivain à qui vous vous référez souvent, Nicolas Mathieu.
Ah oui, moi, elle a été déterminante pour moi.
Pourquoi?
Déjà parce que ces livres m'ont permis d'élucider des ressorts, des hontes, des complexes qui étaient structurants dans ma vie. Et puis, parce que par ces livres, j'ai vu des exemples, comme chez Perec ou d'autres, de ce qu'on peut faire quand on mélange la littérature et puis certains apports des sciences sociales. Voilà. Donc moi, je suis pas un sociologue du tout, je suis pas anthropologue ni rien, mais elle non plus d'ailleurs, mais elle a montré comment on pouvait bricoler, faire des agencements entre ces deux mondes-là et produire du texte, quoi. Donc c'était à la fois un outil d'auto-élucidation et puis un modèle.
Juste peut-être un mot sur le style, votre style, Nicolas Mathieu. Je vais lire un autre exemple, un autre passage de leurs enfants après eux. Avec cette pénurie de shit en prime, ça devenait vraiment compliqué de mener une vie raisonnable. Hassine cracha entre ses incisives, plus personne ne bronchait. Elliot prit sur lui de rouler un spliff. Il y a une sorte de gageure dans ce roman qui est d'écrire en lien au plus près de ce monde-là, ce monde que vous décrivez, qui n'a pas le même vocabulaire que Jean d'Ormesson.
Bon, cette langue-là, c'est pas. Je l'utilise pas pour être près de mon sujet. Je l'utilise parce que c'est la mienne et qu'elle se trouve. Elle fait le grand écart entre deux pôles qui seraient une langue un peu prosaïque. Très populaire, un langage parlé, quoi. Et puis une langue plus articulée, savante, etc. Et ça correspond finalement à ma position, quoi. C'est-à-dire que ma position entre deux mondes, quoi. Moi aussi, je suis dans un espèce d'entre-deux comme ça. Et cette langue, elle fait les allers-retours que moi-même, je ne cesse pas de faire.
Et du coup, pour le prochain roman, je veux pas avoir d'indication précise, mais juste sur cette langue, quand vous dites cette langue, c'est la mienne, est-ce que ça veut dire que c'est votre fibre et que vous allez la poursuivre? Est-ce que, au contraire, vous allez tenter un autre registre?
Mais cette langue-là, je l'ai pas décidée. je l'analyse a posteriori, elle sort comme ça, quoi. C'est après le premier roman que j'ai réussi à me rendre compte de ce truc-là, de ce rythme, de ces allers-retours, de cette espèce de tension qu'il y a dedans. Je n'ai pas un programme en me disant je vais changer de braquet et faire autre chose.
J'écris,
ouais.
ni même de changement de vitesse pour parler comme de l'YZ.
Je suis pas dans la maîtrise, quoi. Je fais avec ce que j'ai.
Voilà, c'est peut-être ça un écrivain. Un mot de conclusion, Jérôme Ferrari, sur l'écriture, lorsque l'on voit donc ces illusions perdues. Est-ce que c'est une fibre que vous souhaitez continuer à explorer?
Il m'arrive de continuer à l'explorer même quand je ne me rends pas compte. Alors, je pensais que
voilà, c'est peut-être après, ça aussi l'inspiration.
Après le prix Goncourt, je voulais faire un roman tout à fait différent que je l'ai fait sur Heisenberg. Et puis il est très différent et en même temps c'est aussi l'histoire d'une chute. Donc je pense que a posteriori on s'en rend compte.